toi maintenant de poursuivre.
Merci Valérie. Bon, je vais simplement présenter Caroline Lequen-Ross qui est avec nous, mais qui malheureusement a des problèmes de caméra. Donc, on ne va pas pouvoir avoir le plaisir de la voir, mais là, vous avez, elle est bel et bien avec nous et on la remercie beaucoup de sa participation, de sa présence. Donc, comme vous le voyez peut-être, Caroline a effectué des études en droit et en philosophie. Elle est titulaire d'un master de philosophie du droit de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Bien sûr, docteur en droit et maître de conférence à l'Université Côte d'Azur. Elle est notamment aujourd'hui responsable du master droit algorithmique et gouvernance des données. Et ses travaux portent sur les enjeux normatifs et conceptuels de la digitalisation des services publics, alors en particulier de l'intelligence artificielle et du big data. Et puis, je tiens à préciser aussi que Caroline est membre de l'Observatoire de l'éthique publique. Voilà, et donc elle va nous proposer une intervention sur eh bien, les régimes de surveillance qui sont de plus en plus massifs et en particulier sur la question du biopouvoir. Donc avec une intervention du biopouvoir à la Gorgone, réflexion sur le pouvoir à l'ère digitale. Alors Caroline, c'est à vous.
Bien, bonsoir à tous et merci pour cette belle introduction. Merci également pour cette invitation. Je suis très heureuse de pouvoir être parmi vous ce soir. Une séance qui marque de nouveau notre engagement, vous l'avez dit, auprès de l'Observatoire de l'éthique publique. Et aussi une nouvelle collaboration avec Mines Télécom, puisque j'ai eu la chance et le très grand plaisir de travailler au printemps dernier avec Claire Levallois-Barthes et Jonathan Keller, bien évidemment. Et je suis très heureuse que l'on puisse de nouveau poursuivre des échanges dans ce cadre. Alors ce soir, je vais vous proposer une réflexion qui s'apparente davantage à une réflexion de philosophe du droit, pardon, que de juriste positiviste. Et il me faut pour ce faire apporter une petite précision biographique qui permettra un peu d'éclairer la méthode qui est la mienne. J'ai été formée lors de mes travaux de doctorat au Centre Perelman de philosophie du droit, où la particularité est d'étudier ce qu'on appelle le droit global. Le droit global, pour nous, c'est une méthode qui consiste à étudier les dynamiques normatives et notamment la manière dont les normes privées émergent, s'imposent à la fois comme point de
Ah oui.
contrôle, comme standard privé, concurrent du droit étatique, du droit classique et en particulièrement du droit international privé. Alors depuis maintenant 4 ans, 4 années, je m'intéresse particulièrement aux dynamiques de droit global dans les technologies. Alors en prenant à la fois la technologie comme objet du droit, objet de ces formes de normativité, mais aussi en m'intéressant à la technologie comme un véhicule même de la norme, dans sa dimension purement normative. Alors, comme on le sait, la technique, hein, dans la tradition philosophique française, est un artefact avant tout politique et social. La technique n'est pas neutre. Et elle emporte bien évidemment non seulement une partie de nos conceptions, de nos représentations politiques et sociales, mais également des normes qui aujourd'hui, dans bien des domaines, agissent en lieu et place du droit. Alors, on en a beaucoup parlé avec la blockchain qui a pu, dans certains travaux au cours des 2 dernières années, être particulièrement appréhendée, analysée au travers du modèle de gouvernance qu'elle proposait. Aujourd'hui, avec le développement des dispositifs algorithmiques, c'est de nouveau un phénomène que l'on peut identifier et apprécier à la fois au sein des administrations avec les décisions automatiques. Les décisions administratives automatiques jusque dans l'entreprise. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de nous intéresser plus particulièrement à certains dispositifs algorithmiques particuliers, en l'occurrence les dispositifs algorithmiques techniques de surveillance, ce que certains ont appelé, et j'aime bien l'expression parce qu'elle est assez, parlante, le fameux coronapticon. Alors c'est un phénomène global qui a consisté pour de nombreux États dans le monde à accompagner les solutions de gestion de crise et de sortie de confinement d'un certain nombre d'outils techniques supposés assister la mise en œuvre de certaines politiques publiques. Alors schématiquement, à l'échelon global, on peut identifier deux types d'outils. Des outils d'un côté de contrôle de l'espace public, de contrôle général de la population. Alors on pense par exemple aux dispositifs de reconnaissance faciale qui ont permis d'identifier le port ou non des masques, la prise de température. On pense également aux robots ou aux drones qu'on a eu d'ailleurs à Nice pour vérifier, faire observer le confinement. Et par ailleurs, un autre type d'outil qui s'apparente davantage à ce que j'appellerais le contrôle des individus, à savoir des applications de traçage qui ont fait beaucoup parler d'elles, mais aussi des passeports ou encore des bracelets électroniques. Alors, toute la question de la séance d'aujourd'hui est de voir dans quelle mesure ces outils-là participent aujourd'hui de la transformation, du moins de l'avènement d'une certaine transformation, parce que c'était des tendances qui étaient déjà prégnantes avant même la crise que nous traversons, d'une transformation profonde de, notre représentation du pouvoir. Cela se joue, à mon sens, à deux égards et à deux niveaux. D'une part, dans la nature même du pouvoir, et c'est là que l'on reparlera évidemment de biopolitique, et d'autre part, dans ses formes, dans les formes du pouvoir et dans les acteurs, qui le mettent en œuvre. Commençons tout d'abord par cette première partie de l'exposé qui va concerner la transformation des représentations et du pouvoir lui-même dans sa nature. Alors, j'aimerais à cet égard mettre en évidence un double phénomène qui en constitue un seul finalement. C'est l'avènement de ce que l'on appelle le biopolitique, hein, qui sera familier à plus d'un d'entre vous, et qui conduit à une redéfinition du compromis entre la sécurité et la liberté dans nos contrats sociaux, particulièrement attentatoire à l'exercice de nos libertés. Donc, l'avènement du biopouvoir auquel contribuent ces outils d'une part, et d'autre part, leur caractère attentatoire aux libertés. Alors, l'avènement, le développement d'un biopouvoir n'est pas une chose nouvelle, hein. Tout le monde a en tête les travaux de Foucault. Ce qui est assez marquant avec cette crise, c'est que le nombre de dispositifs et la grande variété de dispositifs qui ont été développés en donnent des exemples particulièrement éloquents et qui peut-être franchissent, on en discutera, une nouvelle étape dans justement ce biocontrôle. Alors le point commun à ces dispositifs qui correspondent à la seconde catégorie de ce que je mentionnais, à savoir les dispositifs en particulier de contrôle des individus, les bracelets électroniques, les passeports biométriques pour retourner au travail, certaines applications de traçage, ont toutes pour objet en commun la vie humaine. On voit bien que l'objectif, et c'est ça qui en fait des outils de biocontrôle, est bien de contrôler les processus biologiques au service d'une politique humaine. Alors, là où peut-être une étape nouvelle a été franchie, c'est que ces dispositifs sont sans doute pour la première fois, non pas en surface de la peau, mais sous la peau, c'est-à-dire qu'il s'agit véritablement, dans certains cas, de certaines applications, notamment asiatiques, de contrôler la température, la pression sanguine et un certain nombre de paramètres vitaux qui entrent ici en considération. Alors, pourquoi ces dispositifs sont-ils attentatoires à nos libertés? Eh bien, parce que comme je l'indiquais, dans un certain nombre de cas, ils ont conduit à déplacer, au nom d'un management du risque, hein, qui nous est tous familier, le curseur entre sécurité et liberté au bénéfice de la sécurité. Alors, bien évidemment, que les atteintes qui sont portées aux droits fondamentaux sont diverses en fonction des applications et des outils dont on parle. À cet égard, il y a un indicateur qui est particulièrement significatif, c'est celui du consentement, puisque certains États ont subordonné la mise en œuvre de ces applications, leur fonctionnement au consentement des individus, tandis que dans d'autres pays, donc c'est sur la base de volontariat comme en France, tandis que dans d'autres pays, les applications ont été imposées, applications de traçage, à la population. Alors, dans le cadre de ces États qui ont imposé les outils de traçage, et là, on pense, bon, il y a une majorité d'États autoritaires, évidemment, mais il y a aussi également des États européens. Je pense par exemple à la Pologne, dont le dispositif était en partie, était obligatoire. Eh bien, le résultat de ce dispositif est qu'il y a une production assez froide des effets du management sur les populations. Puisque une des grandes difficultés avec ces applications, c'est leur fiabilité. Et quand on automatise une certaine politique publique sur des applications dont les effets sont incertains, eh bien, on se retrouve avec de certaines injustices, avec des sanctions qui peuvent être quasi automatiques, avec des quarantaines également automatiques qui ont pu donner lieu à certains abus. Et puis, on voit aussi plus largement qu'il y a un conditionnement de la vie sociale des individus au travers de ces applications, comme ça notamment était le cas d'Alipay en Chine, où finalement les codes, l'indicateur de santé que pouvait fournir l'application de traçage dans laquelle vous rentriez également vos paramètres vitaux, eh bien conditionnait l'entièreté de la vie sociale des individus, de leur consommation à leur accès aux services publics. Alors évidemment, dans les pays où l'application se faisait sur une base volontaire, les atteintes aux droits ont été moindres. Alors, la généralisation est délicate parce qu'il faut toujours rentrer dans les conditions techniques et légales de ces applications qui dessinent les contours également de l'atteinte. Donc, il ne faudrait pas se précipiter à trop généraliser mon propos. Mais ce qui est intéressant ici, c'est la philosophie qui a finalement derrière ces outils de contrôle, à savoir que la suggestion du politique s'exerce sur la matière corporelle. Et c'est en ça qu'on retrouve cette dimension de biocontrôle. Alors, toute la question a été de savoir si cette transformation ou cette accélération de la transformation à travers ces outils-là est-ce qu'il y avait un risque de voir celle-ci s'inscrire dans une certaine pérennité? Parce que toute la rhétorique, notamment des gouvernements, des gouvernements démocratiques, a consisté à inscrire très précisément ces dispositifs dans le paradigme, si je puis dire, de l'exceptionnalité. Alors, le problème qui se pose sur la question de savoir si est-ce que oui ou non on est face à des outils d'exceptionnalité, il soulève deux autres questions. La première, c'est de dire si c'est exceptionnel, c'est qu'on a déjà un horizon pour voir quand est-ce que va s'arrêter l'usage de cette application. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est dans la mesure où cette application est justifiée par des considérations de sécurité et des considérations hygiénistes et sanitaires, pourquoi devrait-elle s'arrêter après Stop Covid même? Alors, quelques éléments de réponse et quelques exemples. Déjà, sur l'exceptionnalité, on voit bien le problème. L'idée d'envisager une fin imposerait qu'on identifie un événement calendaire ou que l'on s'appuie sur un certain nombre de données qui sont pour le moins incertaines, puisqu'on n'a pas de visibilité sur l'évolution de ces pandémies et que donc il est très très difficile d'envisager de ce point de vue la fin, même si, comme je le disais, on peut envisager un événement calendaire. Par ailleurs, la tentation de l'étendre à d'autres maladies demeure, dans la mesure où pourquoi, par exemple, ne pas utiliser une application de même ordre en ce qui concerne des phénomènes virologiques qui seraient très forts, les grippes saisonnières ou d'autres maladies qui sont transmissibles par divers moyens, on pense forcément au sida, pour pouvoir étendre cette application au nom de la protection des populations. Par ailleurs, je disais quelques exemples, on voit que dans un certain nombre d'États, alors là pour le coup autoritaire, je le précise quand même, eh bien ces applications ont déjà été intégrées dans la pérennité. C'est le cas notamment en Chine, puisqu'à Hangzhou, l'indicateur de santé qui était perpétré par les applications de traçage de gestion de crise a été pérennisé dans le cadre de la notation sociale, en y intégrant un certain nombre d'autres paramètres, tels que les heures de sommeil, la consommation d'alcool, la consommation de cigarettes, pour pouvoir, encore une fois, noter les citoyens et leur permettre d'accéder à l'ensemble des services qu'offre la société. Par ailleurs, on a un autre exemple qui est assez inquiétant sur ce terrain-là et qui montre aussi le succès et le potentiel de ces applications dans le futur. Eh bien, c'est le marché du travail aux États-Unis, tel que le mentionne Cathy O'Neill dans son ouvrage, où elle indique que ces indicateurs de santé sont particulièrement prometteurs pour évaluer les travailleurs, notamment, et qu'ils pourraient demain faire l'objet de politiques plus larges, notamment dans le domaine de l'emploi. Donc, une transformation tout d'abord de la nature du pouvoir, qui certes est exceptionnelle avec un potentiel attentatoire qui n'est pas le même dans tous les États, mais qui pourrait s'inscrire dans la pérennité. J'en viens au deuxième point que je souhaitais invoquer, à savoir les transformations des formes du pouvoir et des détenteurs du pouvoir. Alors, il est vrai que notre imaginaire normatif, en tous les cas celui du contrat social, correspond à l'idée d'un transfert de la souveraineté des individus vers l'État. C'est-à-dire que donc là, bien évidemment, on reprend nos classiques, Rousseau, Hobbes, l'idée de sacrifier une part de sa liberté au nom de sa sécurité et au bénéfice, surtout, c'est ce qui nous intéresse ici, des autorités publiques. Alors, à l'époque contemporaine, il est évident que ce schéma-là a considérablement évoqué. Nombre de juristes et de philosophes ont eu l'occasion de le mentionner, hein, il y a une complexification des relations de pouvoir qui conduit notamment à une mise à plat de celle-ci. On pense inévitablement aux travaux de Host et de Van der Kerkhove sur de la pyramide au réseau. Mais alors, ce qui est très intéressant avec la société de surveillance, c'est qu'elle conduit à réintroduire une forme de verticalité avec de nouvelles figures d'autorité en la personne et l'autorité de tous les géants du numérique, autrement dit GAFAM, GAFAMI et autres figures aujourd'hui bien connues. Alors, en quoi ces acteurs-là transforment notre contrat social, ou en tout cas la représentation du pouvoir dans ses formes? Eh bien, ils opèrent une transformation à deux niveaux. Premièrement, on observe qu'il y a un transfert de plus en plus marquant ou tendanciel, dirons-nous, de la puissance publique vers cette puissance privée. Et d'autre part, on observe de plus en plus une relation directe de transfert d'autorité des individus mêmes vers ces puissances privées. Donc, deux mouvements, de la puissance publique à la puissance privée et de l'individu à la puissance privée. Alors, je commencerai tout d'abord avec ce transfert public-privé qui, là encore, n'est pas du tout un phénomène nouveau, mais que la surveillance, le développement des outils de surveillance, notamment dans la mise en œuvre des politiques publiques, a particulièrement accéléré. Alors, de ce point de vue-là, peut-être revenir un instant sur les applications de traçage, dans la mesure où elles offrent un cas d'école qui est particulièrement riche d'enseignement. En Europe et dans bien d'autres États dans le monde, quand il a été question de développer ces outils, au-delà des aspects de liberté que j'ai déjà évoqués dans la première partie, il y avait deux impératifs sur le plan technique. Premièrement, faire en sorte que ces outils fonctionnent, donc l'impératif de l'efficacité. Et d'autre part, assurer une forme d'interopérabilité des dispositifs qui a été choisi, interopérabilité à laquelle on pouvait s'attendre sur un territoire comme l'Europe, au regard de nos frontières, mais aussi dans d'autres États, je pense par exemple aux États-Unis, où cette question a été décisive. Or, on s'aperçoit qu'à l'échelon gouvernemental, il y avait des dissonances, en particulier à l'échelon européen. Il n'y avait pas d'accord sur le choix technique optimal, notamment au regard de la garantie des libertés, si bien que si l'on avait laissé aux seuls États le choix de ce dispositif technique, eh bien, il était bien difficile d'envisager l'émergence d'une norme européenne unique, en tous les cas sur le plan technique, à cet échelon-là. Donc ça, c'est un phénomène qu'on a vu dans bien des domaines en droit international. J'ai par ailleurs travaillé énormément sur les dettes souveraines. On s'aperçoit de ou encore sur l'environnement. Autre exemple qu'on pourrait mentionner, là, j'enforce une porte ouverte, mais de la difficulté politique de parvenir à des solutions sur des problèmes qui pourtant sont globaux et mériteraient une réponse coordonnée. Eh bien, c'est là que précisément le droit global et les acteurs privés entrent en scène, puisque la solution d'API qui a été proposée par Google et Apple permettait de transcender l'ensemble des problèmes qui avaient été rencontrés, en l'occurrence les dissonances à l'échelon des États, pour proposer à la fois une solution efficace, puisque les dispositifs se voyaient directement intégrés dans leur système d'exploitation, et que, a fortiori, ils proposaient une solution qui était standardisée, globalement standardisée, eu égard à l'effet de levier que représente l'ensemble des utilisateurs ou des personnes qui disposent de ce type d'outils. Donc, ce qui est assez fascinant en l'espèce, c'est que un grand nombre d'États, pour des raisons notamment d'efficacité, d'interopérabilité, alors efficacité plus du côté européen, interopérabilité notamment aux États-Unis, eh bien, on choisit, malgré les choix initiaux, parfois, je pense à l'Italie, je passe à l'Angleterre, qui étaient les choix finalement gouvernementaux, politiques qui avaient été faits, eh bien, de recourir à cette solution pour pouvoir assurer une solution de suivi qui serait pérenne et efficace. D'où l'idée que finalement, c'est le tandem Apple-Google qui a permis de proposer cette solution efficace, efficace, c'est discutable, on en rediscutera après, mais surtout standardisée. Alors, quelle conclusion tirer de ce petit épisode du point de vue de la représentation, des représentations du pouvoir telles qu'on les évoquait ? Eh bien, peut-être d'abord préciser que ce choix, je l'ai dit en filigrane, mais ce choix pour l'application, l'API Google Apple, n'était pas aussi consenti qu'il n'y paraissait. C'est un choix qui est en partie contraint, puisque en témoigne notamment cette tribune qui avait été signée le 26 mai dernier par les ministres du numérique en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne et au Portugal, pour dénoncer l'emprise et les pressions qu'exerçait ce consortium Apple-Google, laquelle portait atteinte, selon les ministres du numérique une fois encore, à la souveraineté numérique des nations dans leurs choix technologiques. Donc on voit bien que c'est bien un rapport de pouvoir qui lui-même a justifié l'adoption de cette solution standardisée. Par ailleurs, autre conclusion, c'est plus une inquiétude d'ailleurs qu'une conclusion, c'est que le fait d'avoir confié les solutions à ces acteurs-là n'a pas été sans poser des difficultés évidemment sur le terrain des libertés fondamentales, notamment en dépit de ce que revendiquaient ces acteurs, puisque d'une part, il y a eu des failles dans l'application qui ont été mises en évidence. Apple et Google, qui avaient annoncé ne pas procéder à la collecte des données, l'a fait effectivement, comme l'a révélé l'enquête du New York Times de cet été. Et a fortiori, un des problèmes majeurs qui se posent, selon moi, c'est que ces dispositifs ne sont nullement soumis à un contrôle démocratique régulier, si bien qu'une fois le blanc-seing donné, eh bien, y a véritablement un transfert de pouvoir qui est fait au bénéfice de l'opérateur technique. Deuxième relation qui tend à transformer quelque peu notre contrat social, eh bien, c'est le développement par ces acteurs de ce que l'on pourrait qualifier un pouvoir de surveillance autonome. C'est vrai que de plus en plus, de par l'emprise qu'ils exercent à bien des égards, eh bien, ces GAFA sont en position d'orienter la vie de des individus. Donc ça, c'est là encore une fois, j'enfonce une porte ouverte. Mais ce qui est intéressant ici, c'est au travers et au départ de la donnée de santé. Alors, c'est ce qui est assez symptomatique et significatif de ce phénomène, c'est bien évidemment le développement d'un certain nombre d'objets connectés. Notamment, je pense à tous les objets connectés au service du bien-être qui ont été notamment développés par Amazon avec Halo, Fitbit pour Google et l'Apple Watch, bien évidemment, qui ont comme vocation première, comme fonction première, le contrôle des corps, puisque ces dispositifs proposent de monitorer, d'évaluer à la fois votre qualité de sommeil, votre activité physique, la répartition de votre masse corporelle, votre rythme cardiaque, la mesure de saturation en oxygène dans votre sang, et j'en passe. Donc, ces dispositifs, ils fonctionnent comment ? Ils fonctionnent sur la base d'indicateurs, de challenges qui constituent à bien des égards, des processus de normalisation des existences. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que ces dispositifs-là, non seulement opèrent au sein dans le privé, si je puis dire, de chaque individu, mais plus largement, ont un potentiel de gestion des risques qui a été identifié par d'autres acteurs, notamment pour penser notre système assurantiel. À cet égard, l'accord qui a été conclu entre Apple et Hancock, qui est un des plus importants assureurs américains, est emblématique, puisque cet assureur a construit tout son modèle assurantiel sur le port de ses objets technologiques qui conditionnent donc les primes d'assurance qui vont être payées par les personnes qui souscrivent à celle-ci. Alors, en Europe, on a également ces dispositifs-là. Hein. Vous avez peut-être déjà été confronté à ceci, les ristournes qu'on peut faire sur l'assurance, notamment en conduite, si vous acceptez qu'on l'on suive votre conduite en voiture. Le Fitbit, alors là, je n'ai pas connaissance, mais il faudrait davantage creuser sur le fait qu'il a été aussi indexé à des contrats d'assurance. Mais en tous les cas, ce qui se profile, c'est précisément une transformation de notre modèle sociétal qui reposait jusqu'alors sur une mutualisation des risques et qui pourrait conduire à une individualisation extrême, notamment de la gestion de risque. Ce que certains annoncent en outre en matière de santé, c'est le développement de nouveaux services qui ne seraient plus uniquement sur le volet curatif, mais également sur le volet prédictif. avec le déploiement de protocoles qui seraient censés piloter les médecins, en s'appuyant sur quoi ? Eh bien, en s'appuyant sur les données de santé, et quel est l'acteur le mieux placé pour celle-ci ? Encore une fois, les GAFA qui en détiennent un plus grand nombre et qui peuvent et vendre, constituer et vendre des profils de santé. Bon, alors, tout ceci est de nouveau avec certaines limites, hein, puisque le RGPD ne permet pas la collecte de données sensibles, mais sur ce qui s'est fait notamment, par exemple, en matière bancaire aux États-Unis avec le scoring bancaire, on s'est aperçu qu'il y avait un marché noir énorme du scoring bancaire qui s'était développé. Donc, ce que l'on peut craindre aussi ici, c'est le développement de ce marché noir, puisque, par exemple, sur le dark web, un dossier de santé est extrêmement valorisé, est très bien coté et encourage donc les hackers, notamment, ça a été dénoncé à plusieurs reprises, à collecter ces données-là pour les revendre, notamment aux assureurs et autres. Voilà pour ce tour d'horizon de la transformation du pouvoir. En conclusion, je suis une juriste, donc il y aura forcément un tropisme. C'est que au regard des atteintes et des évolutions inquiétantes qu'emportent cette consécration du beau pouvoir et cette évolution du pouvoir, eh bien je crois que tout de même, on a un certain nombre d'outils, nous, en tant que juristes, pour précisément pouvoir instituer des contre-pouvoirs, mettre en place un certain nombre de garanties et de procédures qui permettront de limiter et d'encadrer le développement de ces dispositifs-là. Je crois qu'on est encore, j'ai encore l'espoir, j'ai envie de croire qu'on a encore l'espoir d'arriver à un moment opportun, qu'il faut construire les modèles d'audit, qu'il faut aller plus loin que le RGPD, notamment en matière de garantie, en Europe en tous les cas, et que donc je fonde aujourd'hui une grande partie des espoirs en matière d'éthique algorithmique et d'éthique du numérique sur précisément cette juridicisation des enjeux. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue et je vous remercie de votre attention.
Merci énormément, Caroline. Pierre-Antoine va aussi dire un mot, c'est Valérie Charolle. C'était passionnant. Très 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 riche et très précis, et je pense que nous avons tous énormément apprécié cette présentation, d'autant que on était concentrés sur votre voix. Ce qu'on s'est dit, ce qu'on a prévu avec Pierre-Antoine, c'est qu'on ait juste quelques minutes de questions, soit brûlantes, soit de compréhension à ce stade, pour réserver une discussion plus globale après qu'Olivier Acide a fait son intervention, mais